Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne d'émission, le balado officiel de l'Omnium Bac National qui approche à grands pas, Hugues Léger, n'est-ce pas?
Oh oui, plus que quelques jours, on est en onde en direct à partir de vendredi cette semaine, le 5, le début du week-end de la famille. On a très, très hâte. Moi, je suis en train de prendre des forces en Floride en ce moment pour arriver en pleine forme là, pour les 10 jours de l'Omnium.
Ben oui, là, Hugues qui prend des petites vacances sur le bord de terre, tennis quand même, il faut le mentionner. T'es où exactement?
On est à Sandpiper Bay, donc en Floride, à peu près à une heure de Fort Lauderdale, à l'Académie Gabe Jaramillo, aussi les Académies Altitude aussi qui ont acheté l'Académie il y a quelques semaines en fait. Il va y avoir un changement de propriétaire bientôt. Superbe Académie, 20 terrains de tennis, 14 en dur, 6 en terre battue et des écoles de haute performance pour les juniors. Là. C'est vraiment un très, très beau site pour les fans de tennis.
Même quand tu es en vacances, tu es pas loin d'un terrain de tennis. C'est là qu'on reconnaît que tu es un vrai parlant de vrai, Hugues Léger. Je ne perdrai pas trop de temps pour ajouter Nicolas Richard à la conversation qui se joint rapidement. Nico, comment ça va avant que j'ajoute Alexis Gallarno?
Ça va très bien. Vive le tennis!
Ce que vous ne savez pas, c'est que Nico vient tout juste d'arriver dans le broadcast. Alors, il s'est fait prendre de court, mais une fois de plus, comme un grand professionnel, s'en sort merveilleusement bien. Et parlant de gars qui s'en est sorti merveilleusement bien, Alexis Gallarno a eu tout un parcours cette semaine à Winnipeg. Et on a invité notre préféré au podcast, messieurs. Alexis, bienvenue une fois de plus à Sur la ligne.
Messieurs, merci de m'accueillir. Vive le tennis.
Alexis, parle-nous de ta semaine parce que tu as fait une finale, une belle finale à Winnipeg. Ramène-nous là, ton parcours, ça s'est passé comment pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de te voir ou de suivre tes résultats?
Ouais, super semaine pour moi. Beaucoup de hauts et de bas. C'est déjà au premier tour, j'ai 2 balles de match contre moi. Finalement, je m'en sors bien. Je gagne en 3-7. Ensuite, ça a été un peu plus smooth au prochain tour contre un Taïwanais. Super bon match. Ensuite, je joue le premier favori, Liam Brody, qui est 130 au monde. Donc, super bon joueur. Je l'avais déjà joué en janvier. Donc, je savais que ça allait être un gros match, qu'il allait bien se battre. Puis, évidemment, ça a été un autre combat. Finalement, je gagne encore en 3-7. Ensuite, en demi-finale, un autre bon match de ma part. Donc, une fois, j'étais rendu en finale, puis ça s'est joué hier, perdu en 2-7, malheureusement, mais ça a été une super bonne semaine, super positive pour moi. Là.
C'était quoi ta réaction après la défaite? Est-ce qu'il y avait beaucoup de déceptions ou tu avais déjà relativisé ta semaine en disant au final, ça aurait été quand même une bonne semaine?
C'est sûr que sur le coup, un peu de déception. J'ai tout de suite pris, ce matin, j'ai pris l'avion, puis déjà, j'ai mis ça en perspective, puis c'est vraiment une semaine où est-ce que je peux construire sur les choses que j'ai apprises, sur les choses que j'ai bien fait cette semaine, puis essayer de garder ce momentum-là pour la suite. Là.
Et la suite, ce sera peut-être... l'Omnium Banque Nationale, on n'a pas encore les wildcards. Puis évidemment, pour les gens qui ne te suivent pas, tu n'as pas le classement pour rentrer dans le tableau directement. Mais enfin, si c'est l'Omnium, ça nous fera plaisir de te regarder là. Comme ça s'en vient, c'est quoi tes plus beaux souvenirs de l'Omnium? Parce que c'est une question qu'on a posée à beaucoup de monde récemment.
Mes plus beaux souvenirs, ça serait les week-ends de famille. Où est-ce que... J'y vais avec ma famille au complet, on fait les activités qu'il y a sur le site, on s'amuse à faire le service le plus fort, on s'amuse à faire je pense qu'il y avait du bungee à l'époque, il y avait du mini-tennis. Sinon, dans mes souvenirs, tu sais, le match de Denis Shapovalov contre Rafael Nadal, ça aussi c'est un très beau souvenir pour moi. J'ai grandi avec Denis, donc de le voir... faire un super match comme ça, ça a été super motivant pour moi, puis ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Hein.
Ouais, je pense que c'est des bonnes sélections. C'est drôle parce que je voyais Nicolas Richard sourire quand tu parlais du week-end de la famille et du service le plus fort. Je pense que vous avez des expériences similaires, Nico. Là.
Oui, à la différence près qu'Alexis doit la rentrer pas mal plus que la mienne, mais ça, c'est l'exception. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on en parlait la semaine dernière. Là, ces week-ends-là sont assez géniaux. C'est surtout l'accès qu'on donne aux amateurs, aux partisans, aux jeunes partisans aussi. C'est ce qui m'attirait à l'époque. Puis c'est aussi de ce dont je me rappelle le plus. Ça fait partie, inévitablement, des plus beaux souvenirs de ce qu'on appelait la Coupe Rogers avant.
Oui, même à l'époque de Hugues, c'était l'Omnium du Maurier, à l'époque où les cigarettes là, commanditaient des événements. Te souvenais-tu de l'époque du Maurier, Alexis? Est-ce que tu le connais par l'histoire? Est-ce que tu te souvenais de ce commanditaire-là? Non.
Je connais de nom, c'est tout.
Puis j'imagine que tu n'es pas un grand fumeur non plus.
Non.
Hugues, est-ce que tu avais une question pour Alexis?
Oui, bien, on est passé vite un peu par-dessus, mais est-ce que tu vas faire les qualifications pour l'Omnium, Alexis, ou pas?
Je n'ai pas encore de nouvelles, mais je me prépare à jouer, ouais. Puis c'est pour ça que là, je planifiais de ne pas jouer après Winnipeg pour justement me préparer à mon mieux. J'ai quand même enchaîné 3 tournois de suite avant Winnipeg. Donc là, pour la semaine, j'ai mon entraîneur qui vient d'arriver en ville. Donc, on va faire une bonne semaine d'entraînement, puis je vais être prêt à jouer si jamais on me donne la chance.
Alexis, tu parlais de Liam Brody, tu sais, que tu as affronté, qui est, bon, tu as dit 130, mais qui, je pense, est de quand même calibre top 100. Oui, tu as fait la finale, mais au-delà de ça, est-ce que le fait d'avoir rivalisé avec un gars comme ça, ça t'a aussi confirmé que tu pouvais te tailler à ces gars-là, puis c'est ultimement peut-être ta plus grande victoire de la semaine?
Oui, c'est sûr. Puis de le battre une deuxième fois cette année, ben, ça confirme que j'arrive à être beaucoup plus constant avec mon niveau de jeu, avec ma mentalité en approchant les matchs. Donc, c'est des belles affirmations pour moi que ça montre que mon travail il fonctionne, puis de continuer dans cette direction-là avec les choses que je travaille.
Puis tu sais, avec Hugues, on parle souvent du jeu, des aspects améliorés. Dans ton cas, pour te rendre là, pour te rendre à cette coche-là de manière régulière dans ton jeu, qu'est-ce que tu penses que tu devras peut-être améliorer ou peaufiner un petit peu?
Ben, c'est sûr, tous les coups encore sont à améliorer. Par contre, je trouve que l'aspect mental, c'est ce que j'ai beaucoup amélioré. C'est des expériences comme jouer en Coupe Davis, d'avoir maintenant été sur le circuit Challenger pour un an, ben, ça fait quand même une différence. Puis je sens que de plus en plus, je suis confortable sur ce circuit-là. Puis je peux me rendre plus loin dans les tableaux. Je commence à rentrer dans les tableaux principaux. Donc, ça me permet aussi de travailler sur mon jeu et non juste compétitionner à chaque semaine, tu sais, à jouer les qualifications, les tableaux principaux. Donc, ça change un peu la donne.
Puis en contrepartie, est-ce qu'il y a un coup cette semaine que tu t'es dit, OK, ça marche, ça fonctionne, j'utilise fréquemment ton service, ton coup droit, ton revers, je sais pas?
Oui, ben c'est sûr que j'aime mon revers, je pense que mon revers, ça a toujours été une de mes forces, mais sinon aussi ma combativité, je pense que cette semaine, je l'ai bien montré. Puis j'ai utilisé aussi l'énergie de la foule pour aller chercher les efforts extra, puis ça fait une grosse différence de jouer à la maison. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué des tournois au Canada, donc ça a fait du bien.
Alexis, petite question sur ta finale contre Emilio Gomez, qui est le fils de Andrés Gomez, que ben, pour les gens de mon âge, beaucoup de gens se souviennent de sa victoire à Roland-Garros, où il avait battu Agassi. André Agassi, l'année où tout le monde croyait qu'Agassi était pour gagner son premier Roland-Garros, et c'était Andrés Gomez qui avait gagné. Et comme son père, Emilio Gomez, n'est pas un jeune quand même. Je pense qu'il a 30 ans, Emilio, n'est-ce pas?
Oui, je pense dans cet environ-là. C'est un joueur d'expérience. Il est allé au collège américain lui aussi. Mais tu vois qu'il y a de l'expérience. Puis je trouve qu'une des raisons pourquoi il a connu un bon début de match, ben, c'est qu'il a mieux géré la situation que moi, où est-ce qu'on a eu quelques délais à cause de la pluie, puis je pense que lui, il a géré ça un petit peu mieux, malheureusement, mais c'est une bonne leçon pour moi, là.
C'est clair. Puis dans le deuxième, t'étais vraiment pas loin. Là. Ça s'est terminé au tie-break, là, je pense, 7-4 dans le tie-break du deuxième set. C'est un match serré. Je pense que si tu avais eu un petit peu plus de temps, si tu avais réussi à passer à travers le tie-break du deuxième, durant le troisième manche, ça aurait vraiment été intéressant. Tu avais vraiment une bonne chance là, de remporter ce match. Là, contre, je le répète, là, le 121e mondial, Emilio Gomez. Fait que là, on voit un peu où tu te situes au niveau des joueurs que tu peux battre ou que tu as pu pousser cette semaine. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je te dis, tu étais sur la première page du site de l'ATP Tour hier là, dans le volet Challenger. C'est toujours le fun de commencer à avoir ce niveau de visibilité. Là. Donc, bravo pour ta finale, Alexis.
Merci. Et Nico, juste à dire, non, il n'est pas parent avec Scott Gomez, puisque ça semble être le seul Gomez que tu peux...
Ben, c'est ce que je me demandais, en fait. Je suis content qu'on précise.
mais cela dit, à ta défense, moi, j'ai dû faire quelques recherches aussi, parce que c'est pas un joueur que je connaissais beaucoup. Et je regardais sa carrière, elle s'est terminée en 1995. Alors, je n'étais pas très vieux là, non plus quand... sa carrière s'est terminée. Là, alors, je te comprends. Alexis, c'est peut-être un peu indiscret comme question, mais la bourse qui était donnée aux finalistes était autour de 4 000 $. À quel point ça fait une différence d'aller chercher une bourse dans les quatre chiffres pour un joueur comme toi, classé au-delà de la 200e place mondiale?
Ouais, c'est énorme. Je pense que ça me permet de repayer mes 3 semaines sur la route. Donc ça, c'est un stress de moins. Puis ça me permet aussi de possiblement rentrer dans les qualifications du US Open. J'attends de voir ce matin si je rentre dans la liste des joueurs acceptés. Puis ça, ben ça fait une grosse différence aussi au niveau du budget. Ça me permet d'avoir un coach sur la route plus de semaines. Donc, non, il y a des belles choses qui se produisent, puis je suis reconnaissant pour ça.
Quand on a ton statut de joueur, d'une certaine manière, c'est-à-dire de joueur qui ne fait pas des millions de dollars, à moins que je me trompe, que tu as des commanditaires spectaculaires que je ne connais pas, qui te financent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est le genre de choses que tu penses quand tu es sur le terrain, dire « OK, là, si je gagne un tour de plus, ça va m'aider pour les 2 prochaines semaines » ou tu réussis à ne pas penser à ça sur le terrain? En gros, est-ce que ça peut t'affecter, ce genre de situation-là, quand tu joues?
Oui, ça peut, puis ça m'a affecté au passé, pour être honnête, mais... c'est ce que un an sur le circuit m'a aidé à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de pensées que tu vas avoir, mais c'est de contrôler lesquelles que tu veux mettre ton attention, tu veux mettre ton attention sur lesquelles, puis ça, c'en est une que tu veux pas mettre ton attention dessus. Donc, j'essaie de penser à moi, qu'est-ce que je peux contrôler sur le terrain, qu'est-ce que je peux contrôler dans ma mentalité, dans qu'est-ce que comment je veux jouer mon adversaire, ces choses-là. Donc, ça aide là, d'être un an sur le circuit.
Parce que tu disais tu sais, que tu vas ton nouvel entraîneur va venir te rejoindre. C'est un Français. Si tu dois payer son billet d'avion pour qu'il s'en vienne, déjà dans 4 000 $, il y a déjà une bonne chunk de cet argent-là qui est parti. Là.
Exact, exact.
Nico?
Oui, une question qui sort un petit peu du cadre du tennis. Je sais que, bon, t'étais à Winnipeg pour jouer au tennis, mais c'est comment Winnipeg? L'été.
Winnipeg, pour de vrai, c'est les gens qui rend la beauté de la ville. C'est le temps. C'est les gens sont super gentils, super accueillants, super authentiques. Puis j'ai vraiment passé une belle semaine. J'avais fait mes premiers points ATP. Pas premier point ATP, mais mes premiers. J'avais gagné mon premier match Challenger à Winnipeg il y a 6 ans environ. Donc, j'avais déjà des beaux souvenirs de Winnipeg. Puis, j'avais rencontré des gens que j'ai resté en contact avec eux. Puis, de les revoir cette année, c'était le fun. Mais sinon, la ville en tant que telle peut être améliorée un peu.
C'est pas Dubaï.
Non, exact.
Ça sent bien, ça sent bien. Mais c'est une excellente réponse de relations publiques. Ça, c'est les gens qui font. Moi, j'ai assurément réutilisé cette technique-là. C'est vraiment fabuleux. Et est-ce que tu avais une question pour notre invité avant que je le laisse aller parce qu'il est déjà sur le décalage horaire et a pris l'avion ce matin, alors on ne le tirera pas
trop. Une grosse heure.
Ouais, ben, moi, je suis toujours intéressé par le volet financier et marketing des choses, comme tu sais. Puis, sans nous donner de grands détails, mais quelle latitude tu as sur une année pour planifier le type de calendrier que tu souhaites avoir, comment tu te sens au niveau financier? Est-ce que c'est une préoccupation hebdomadaire, mensuelle, annuelle? Comment tu peux gérer ton calendrier sur une année là, en fonction du budget auquel tu sais que tu peux avoir accès, en fait?
Mais en fait, depuis que j'ai tourné pro, c'est quasiment à la semaine, c'est
Ouais,
plate à
c'est
dire,
ça.
mais là, tu sais, j'investis en moi, j'investis en mon équipe. Je pense que c'est important de bien s'entourer. Donc là, j'ai commencé à travailler avec un entraîneur français qui lui aussi, il veut, tu sais, il a beaucoup de vouloir, il veut qu'on atteigne les objectifs. Puis, des résultats comme j'ai eu la semaine dernière, bien, ça va m'aider à long terme. Ça va m'aider aussi à avoir un peu de visibilité. Puis moi, bien, mon objectif, c'est d'avoir des collaborations avec des commandites, d'essayer de les représenter aussi au mieux que je peux. Puis, de créer des relations, pour moi, c'est quand même important. Je ne veux pas non plus m'associer avec n'importe qui. Donc, je pense qu'avec le temps, je vais être avec les bonnes personnes.
Je
Mais
comprends.
pour
Ceci aussi.
l'instant, c'est à la semaine.
Vas-y.
Merci.
Okay.
Non, j'allais dire, en tout cas, tu peux compter sur notre soutien avec nos modestes moyens pour te donner toute la visibilité que tu mérites. Nous, on aime bien
Voilà.
suivre ta progression. C'est vraiment fascinant. Puis je pense que les gens sont intéressés à ça aussi. Alors, on parle beaucoup de l'intérêt que le public a pour le tennis canadien. C'est pas seulement Denis et Félix et Leila et Bianca. Les gens veulent en savoir plus. Et tu fais partie de cette équipe qui se développe en ce moment au niveau canadien. Tu as été en Coupe Davis, justement. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour te soutenir, on va être là.
Merci beaucoup.
Puis justement, tu t'es associé à une nouvelle une compagnie de relations publiques. Veux-tu en parler? Parce que j'imagine que ça fait partie aussi des éléments importants de développer tes propres plateformes aussi pour pouvoir aller peut-être chercher des revenus supplémentaires. Tu parlais de partenariat. Évidemment, c'est facile quand tu es un joueur connu mondialement de développer un following, comme on dit. Mais est-ce que ça fait partie de ta stratégie aussi pour aller chercher des revenus? Tu es associé, peut-être tu en parler. Je pense que c'est à la compagnie, c'est Louis.
Récemment, l'agence Louis, c'est Mika et William, deux jeunes entrepreneurs québécois qui ont un profil qui est dans les mêmes intérêts que moi. T'sais, ils veulent développer du contenu, ils veulent bâtir une belle compagnie. Puis pour moi, ben, ça me permet aussi de délaisser un petit peu de mes fonctions à essayer de gérer mes réseaux. Parce que c'est quand même beaucoup de tâches que pour l'instant, je trouve quand même assez dures. Déjà que je suis en plein processus de travailler avec un nouvel entraîneur, c'est des nouveaux messages, une nouvelle pensée. Donc, déjà ça, je trouve que c'est quand même mentalement, ça prend du jus. Donc, c'était un bon timing pour moi de commencer à travailler avec l'agence Louis. Puis en espérant avoir une bonne collaboration avec eux.
Ben, en tout cas, tu leur diras de ne pas hésiter à nous contacter s'ils ont besoin d'un petit partage puis c'est la même chose pour toi. Comme Hugues le
Yes.
disait,
Oui.
on va être les premiers à vouloir faire ta promotion, Alexis, parce que non seulement c'est notre mandat, parce qu'on suit le tennis, mais aussi, je te le dis sincèrement, parce qu'on t'aime beaucoup. Tu es un gars qu'on aime beaucoup suivre, puis ça nous a fait plaisir de te recevoir une fois de plus dans un contexte où tu as connu une semaine extraordinaire, je le rappelle, finaliste au Challenger de Winnipeg. C'est pas banal. Comme exploit.
Et
Merci, merci.
Alexis, si jamais tu as une bonne nouvelle puis tu participes au qualif, j'aimerais ça qu'on te reparle la semaine prochaine, là, si tu veux bien. Si tu as un peu de temps, évidemment, mais on verra comment la semaine se présente, là, mais qui sait si une bonne nouvelle pourrait pas arriver cette semaine.
Certainement, je vous tiens au courant. Je peux toujours faire du temps pour vous.
C'est
Merci
bon.
beaucoup.
Ah ben, on l'apprécie.
Génial.
Et ça, tu sais quoi? En plus, on a un studio sur place. Viens nous voir en personne.
Incroyable.
Mais on oui, va faire ça. Mieux, ça. Viens nous jaser sur place en direct. Là, alors, merci Alexis. Félicitations encore pour ta belle semaine à Winnipeg. On t'en souhaite plein d'autres belles semaines comme ça et ça nous fera plaisir de suivre tes développements, ta carrière.
Merci.
Bye-bye Alexis.
À bientôt. Salut.
Ah, c'est pas pour rien, messieurs, bon. Que c'est notre chouchou au podcast, n'est-ce pas?
Hein? Non, un gars de Laval. Les gens de la Rive-Nord, là, ce sont des bijoux.
Hugues, toi, originalement, t'es-tu toujours été dans les cantons? En fait, on n'a plus le droit de dire les cantons. Hein? On doit dire l'Estrie maintenant. Là, ça a passé au conseil. J'ai vu ça.
À la belle région de Brome, Missisquoi. Non, mais moi, j'ai passé, je vous l'ai dit souvent, plusieurs années à Repentigny, qui est un autre berceau du tennis québécois, où les Sylvain Bruno, mm-hmm. Marie-Ève Pelletier et autres Jocelyn Robichaud ont fait beaucoup de belles choses. Donc, j'ai quand même vécu là, toute mon adolescence de 13 ans jusqu'à 20 ans là, à Repentigny. Donc, j'étais côté 4-5-0, mais du côté est de l'île de Montréal.
Et le berceau des Cowboys fringants, par ailleurs, Repentigny, si je peux.
L'Assomption, exactement.
Ah ouais. Hein? Hugues, est-ce que le fameux bar, la Ripaille, existait déjà à Repentigny à ton époque?
C'était un de mes débuts de soirée traditionnelles à la Ripaille. Et ça s'est terminé généralement à la Marina de Repentigny parce que ça souvenait un petit peu plus à la Marina qu'à la Ripaille.
Wow! Toi, Nico, t'as pas connu ça, la Ripaille, hein, parce que...
Malheureusement, c'est... non. Je suis un enfant du vieux Jacques.
Ah, mais écoute, Nico, t'as pas dû sortir ben gros au vieux Jacques non plus, parce que... moi, j'ai sorti là beaucoup parce que j'étais dans le... On s'éloigne tellement, là. Mais on est tellement loin du tennis. Tu sais, pour dire que c'est... Ah, mais c'est intéressant que la Ripaille avait... Je savais pas qu'elle avait une histoire aussi longue que ça. Alors, Hugues et moi, qu'on reconnecte d'une certaine manière, parce que moi, vous savez, les boys, ça fait longtemps que je suis à Longueuil, mais j'ai grandi à Terrebonne. Alors, je suis born and raised à Terrebonne et aussi sur la Rive-Nord. Ma mère, quand je regardais pour acheter des condos, je l'ai peut-être racheté sur la Rive-Nord, mais elle m'avait dit « Fais pas ça, rapproche-toi de la ville. » Bon, OK, on va me rapprocher de la ville. Alors, voilà. on s'est éloigné un peu, mais ça pour dire qu'on était bien content de recevoir Alexis une fois de plus. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec lui à l'Omnium Banque Nationale. Je lui souhaite de jouer à tout le moins les qualifs. On verra. Je pense qu'il est certainement un candidat intéressant, particulièrement avec le résultat qu'il a fait cette semaine. Messieurs, l'Omnium Banque Nationale approche à grands pas, mais il y a quelques résultats intéressants cette semaine dont je voulais parler. Hugues, as-tu eu la chance de regarder un peu de tennis ce week-end passé?
Oui, absolument. Je manque pas. J'ai pris un petit break quand même, mais quand même, quand j'ai vu l'affiche qui se dessinait à Umag entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, je pouvais pas ne pas regarder ce match-là et j'ai été servi. C'est le cas de le dire. Victoire en 3-7 de Yannick Sinner contre le numéro 5 mondial. 6-7, 6-1, 6-1. Quel match intéressant. Alcaraz qui gagne le premier set difficilement au tie-break. Après avoir eu 4 balles de set dans le tie-break, il réussit sur un point fumant encore une fois, comme celui et Rafael Nadal savent le faire à bout de bras, dos au filet. Il a réussi à faire un passing croisé incroyable pour finaliser le set. Et il menait 1-0. 0-40 au début du deuxième set sur le service de Sinner. Donc, il y avait 3 balles de break là, pour prendre une avance de 2-0 dans le deuxième set. Et Sinner a réussi à renverser la situation. Et après, Alcaraz n'était plus le même. 6-1, 6-1 dans le deuxième et troisième set pour Sinner qui remporte cette victoire à Umag. Donc, Alcaraz n'a pas réussi à défendre son premier titre qu'il avait obtenu d'ailleurs à Umag il y a un an en Croatie. Mais très, très belle finale. Et le retour de Alex de Minaur du côté de Atlanta aussi qu'on a vu un peu moins cette année, là, talentueux Australien. Et une autre paire d'Australiens qui nous plaît beaucoup en double. Donc, notre ami Kyrgios a remporté le double à Atlanta, pour ceux qui n'ont pas suivi les résultats avec son partenaire du fameux duo Special K.
C'est vrai, c'est Special K, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais oui, c'est vrai, duo qui a remporté le titre en Australie, notamment. Ouais, Alcaraz, je revenais sur lui deux secondes parce qu'il va peut-être commencer à avoir une dent contre les Italiens, lui, parce que ça fait deux semaines de suite qu'il perd en finale
contre l'Italien. Deux finales, exactement. Contre Musetti.
Et là, tu sais, c'est drôle parce que, bon, on commence à avoir des attentes un peu spectaculaires dans le cas d'Alcaraz, avec raison d'une certaine manière, mais parce que c'est quand même deux beaux parcours, mais c'est quand même deux défaites en finale contre des joueurs qu'il aurait pu ou auxquels on s'attendait qu'il batte. Enfin. Mais ça reste quand même deux bons parcours et Demeneur qui l'emporte à Atlanta. Ça a été un tournoi intéressant. Moi, c'est toujours un tournoi que je suis du coin de l'œil. Est-ce que c'est ton cas aussi, Hugues, de façon générale, à Atlanta?
Moi, j'aime beaucoup Atlanta. J'aime beaucoup Washington qui commence cette semaine aussi, là, qui sont des tournois qui précèdent la Banque nationale. Donc oui, c'est des tournois que je suis et que j'affectionne particulièrement. Et c'est sûr que j'aime la saison américaine sur dur qui mène jusqu'au US Open, toute la US Open Series d'ailleurs, parce que c'est nos tournois, c'est notre série de tournois en Amérique du Nord. Ils sont près de nous, c'est les surfaces qu'on connaît au Québec aussi, au Canada. Donc oui, j'ai une affection particulière pour toute la série du US Open qui commence en ce moment.
Atlanta, qui est un tournoi outrageusement dominé par les Américains et particulièrement par John Isner dans les dernières années. Là, je pense qu'il a comme 6 titres dans les dernières années. Mais dans ces. En fait, depuis 2013, il n'y a que John Isner qui a remporté ce tournoi-là et des Australiens. Alex de Minaur a gagné les deux dernières fois que ce n'est pas Isner qui l'a remporté. Et Kyrgios avait remporté le titre en 2016. Alors,
excellent fait, Alexandre, que tu as trouvé ça. Donc, Isner et les Australiens. Et les Australiens. Très bonne anecdote. Oui.
Ben ouais, exact. On parlait du tournoi d'Atlanta, Nico, tu as eu des petits problèmes de connexion. Est-ce que c'est un tournoi que tu gardes toujours du coin de l'œil? Parce que moi, c'est toujours ma rentrée en Amérique du Nord. C'est toujours un tournoi que j'aime bien regarder. Alors, je suis assez fan de John Isner aussi. C'est un tournoi sur lequel tu gardes un œil?
Oui, puis comme tu l'as dit, ça montre très bien tout le talent américain. On a vu Francis Tiafoe, notamment au cours, au cours de la semaine, qui était excellent. Tu l'as dit, John Isner, c'est son tournoi. Brooksby aussi. T'sais, l'an dernier aussi, on avait Sébastien Corda, Tommy Paul. Bref, on néglige souvent, je trouve, le talent américain qui se reconstruit tranquillement. T'sais, on a eu John Isner qui était à peu près le seul avec Jack Sock pour un certain moment. Mais là, Taylor Fritz, c'est le meneur de cette vague de nouveaux talents américains. Le tournoi d'Atlanta, tu l'as dit, c'est le tournoi tout désigné pour admirer ce talent parce que ces joueurs-là jouent à la maison, ce qui est assez rare. On le sait, le swing nord-américain est assez bref. Donc, de les voir jouer chez eux avec leurs compatriotes, tu l'as dit, pour les Américains, c'est une plateforme extraordinaire.
Oui.
Et du côté des femmes, messieurs,
j'allais en parler.
Garde, vas-y donc, je vais te laisser aller.
Ben, intéressant ce qui s'est passé à Varsovie parce que Caroline Garcia, la Française, qui remporte le titre, mais après avoir écarté en 3-7 en quart de finale, Iga Swiatek. Donc, vraiment, belle victoire de Caroline Garcia. Là, super, super beau parcours. Et Swiatek, là, qui commence à se faire un petit peu bousculer. Je pense que plusieurs joueuses vont commencer à regarder du vidéo pas mal là, sur les matchs qu'elle a perdu cette année, notamment à Roland-Garros et maintenant à Varsovie, là, pour aller peut-être détecter des petites failles dans son jeu, parce qu'elle commence à avoir quelques défaites qui viennent un peu peut-être craquer son armure d'infaillibilité là, qu'elle avait depuis le début de l'année.
Ouais, en même temps, je veux dire, on ne peut pas penser qu'elle va faire des séquences de 20-30 victoires systématiquement tout le temps. Là. Mais non, effectivement, Caroline Garcia. Et ça va être une fille qui va être intéressante à suivre peut-être ici à Montréal, parce qu'une Française, à Toronto, je veux dire, une Française au Canada qui va arriver sur une bonne séquence. Gardez-la du coin de l'œil, Caroline Garcia, d'autant plus que, comme tu le dis, elle vient de battre la meilleure joueuse sur le circuit, Iga Swiatek.
Elle a une excellente séquence aussi, le Garcia. Il ne faut pas penser qu'elle sort de nulle part. Là. Ça fait plusieurs semaines, souvenez-vous, c'est elle, si je ne m'abuse, qui avait battu Bianca en finale là, à Hambourg là, il y a quelques semaines. Elle a une bonne saison sur gazon, une bonne saison sur terre battue. Tu sais, elle approche de la trentaine, là, s'il ne fait pas erreur, donc elle sort un peu pas de nulle part parce qu'on entend son nom depuis quelques années dans le top 100. Bon, mais là, elle a vraiment une excellente séquence. Donc, soyez pas surpris si à Toronto, elle franchit le deuxième, le troisième, voire le quatrième tour. Elle est vraiment dans de très, très bonnes dispositions et ce titre-là ne sort pas de nulle part. Oui, c'est surprenant, je pense, de défaire Swiatek sur terre battue, mais je ne suis pas tombé non plus en bas de ma chaise lorsque c'est arrivé.
Non, tu fais bien de souligner qu'elle connaît une bonne séquence, Nico, parce que quand on regarde ses résultats des dernières semaines, bon, l'écart à Palerme, là, mais c'est un troisième tour en réalité, mais demi-finale à Lausanne, quatrième tour à Wimbledon, mais elle a perdu contre Buzkova, d'ailleurs, qui vient de remporter un titre Buzkova ce week-end, comme tu le dis. Elle a remporté le tournoi en Hambourg, alors ça va très bien dans le cas de Caroline Garcia. Elle est 32e mondiale présentement. Elle va être à surveiller là, parce qu'elle connaît ses meilleurs moments de la saison dans le dernier mois et demi. Là. Alors, à ne pas négliger, elle, à Toronto, messieurs. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Caroline Garcia?
Non, je pense qu'elle fait le tour. Gardez-la à l'œil parce qu'elle pourrait causer une surprise. Peut-être moins que Camelia Giorgi l'an passé parce qu'elle, Giorgi, est vraiment sortie de nulle part. Mais Garcia, ça pourrait être une adversaire. En tout cas, en tant que joueuse, je ne voudrais pas l'avoir sur mon chemin à Toronto.
Non, oui. Exact. Et puis, c'est le genre de joueuse que si vous avez un dark horse, là, ça peut être un cas intéressant dans le cas de Caroline Garcia. Et on parlait de Marie Buzkova. Ben, elle aussi, elle a remporté son premier titre en carrière. Elle, ça se passait à Prague. Elle a battu Anastasia Patopava. Patopova, 6-0-6-3, alors un premier titre pour Buzkova, qui connaît elle aussi une belle séquence.
Et j'étais surpris parce que Buzkova va affronter, je ne m'abuse, Raducanu. En tout cas, elle était supposée affronter Raducanu au premier tour, mais là, je regarde à l'instant, son match est annulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si l'une des deux a déclaré forfait pour Washington, mais ça aurait été vraiment un duel intéressant entre Raducanu, qui était 2e ou 3e tête de série, et la championne de la dernière semaine, mais le match a été annulé, paraît-il, de ce que je vois sur le site web.
On va en reparler tout de suite après la pause, messieurs de Washington, parce que justement, particulièrement du côté des femmes, il y a beaucoup de choses. Le tableau est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, il y a une Canadienne qui est dans ce tableau-là aussi. On va en parler au retour de la pause.
Quand vous séjournez à l'Hôtel Montville, vous profitez d'une place de stationnement ainsi que d'un petit déjeuner gourmand pour bien commencer la journée. Rendez-vous sur le site hotelmontville.com pour planifier votre escapade. Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
Oui, messieurs, l'Hôtel Montville, Hugues, est-ce que tu t'ennuies de l'Hôtel Montville cette semaine? C'est ton habitat naturel en général le lundi?
Écoute, je ne suis pas à plein en Floride en ce moment, à l'Académie de Gabe Jaramillo, mais oui, j'ai hâte de revenir au Montville. Puis d'ailleurs, durant notre semaine à l'Omnium Banque Nationale, on va y passer beaucoup de temps, et sûrement un peu ensemble d'ailleurs, parce qu'on va y loger une partie de la semaine. Donc, on sera de retour pour profiter de la belle terrasse sur le toit dans ces belles journées d'été du début du mois d'août.
Ouais, ben je sais pas si moi je vais pouvoir profiter de la terrasse pour être bien honnête, parce que à l'heure qu'on va arriver au parc Jarry, à l'heure à laquelle on va partir.
Ça c'est vrai. On va se coucher, puis on va se coucher en arrivant à l'hôtel, oui, effectivement.
Ouais, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas trop profiter du nightlife, mais on souhaite quand même que les gens qui seront à l'hôtel Montville durant l'Omnium puissent en profiter pour nous. Parce que nous, ben, on va profiter du fait que ben, on va vivre toute une expérience avec la diffusion et le podcast sur la ligne. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que on va faire une émission matinale à tous les matins durant le tournoi. Il y aura des épisodes aussi à la radio. On fait 4 heures de tennis le samedi, 4 heures de tennis le dimanche des qualifications dans lesquelles il y aura des entrevues, il y aura aussi des émissions d'actualité. On va faire aussi nos tableaux, nos prédictions de tableaux en prévision de l'Omnium Banque Nationale. Et ben, les matchs seront diffusés en direct. Là. Il y aura de la programmation à la radio. Le soir, vous serez sur place avec nous à la radio au 91.9 Sport, oui. Dans notre studio qu'on va être sur place. Hugues, est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, mais comme on l'a dit, vous allez vivre toutes les émotions du tournoi avec une couverture audio comme il n'y a jamais eu. à Montréal. Donc, ça va être vraiment intéressant. Là, dès vendredi, une programmation étendue. On passe avec les animateurs du 91.9 pratiquement les journées entières jusqu'au week-end des demi-finales et des finales. On a notre propre studio aussi durant la semaine. On aura des invités prestigieux du monde du tennis, coach, parents de coach, joueurs, bâtisseurs du tennis. On aura une émission qui s'appellera Café à l'Omnium Banque Nationale tous les jours pour faire le retour sur les matchs, un retour sur les matchs de la veille et parler des matchs qui se préparent pour chaque journée. Donc, beaucoup, beaucoup de contenu pour les passionnés de tennis et un volume et une qualité de contenu inégalée pour le tennis à Montréal.
Ouais, et vous allez pouvoir nous suivre à la radio et pouvoir lire Nico aussi dans la presse. Nico qui va se partager entre nous et la presse et moi et Hugues qui va se partager entre le podcast et le 91.9. On manquera pas de travail, évidemment, Nico, Abraham, qui vont être là sur place pour faire rayonner le podcast et Sarah Jade.
Sarah Jade pour les sublimes images qu'elle fait. C'est une photographe de grand talent, Sarah Jade.
Oui, c'est une photographe de grand talent. Elle est d'ailleurs engagée par Tennis Canada en plus de travailler pour nous. Elle a aussi sa compagnie de gestion de médias sociaux. Elle fait ça à merveille et elle nous donne un méchant bon coup de main. Alors, un salut à toute l'équipe puisqu'on y est. Messieurs, avant la pause, je vous parlais du tournoi de Washington, beaucoup de choses intéressantes dans le tableau. D'ailleurs, d'abord, il y a beaucoup de joueurs intéressants dans le tableau à Washington. La première dont je veux qu'on parle, c'est Rebecca Marino, puisqu'elle s'est qualifiée, elle, pour le tournoi de Washington. C'est une autre belle qualification dans son cas, ça se poursuit.
Oui, puis c'est un, je pense, des duels, tout tournoi confondu depuis le début de l'année, que j'ai le plus hâte de voir parce qu'il m'intrigue énormément contre Venus Williams, une fille qui a tout à gagner contre une fille qui a tout gagné, deux grandes serveuses, deux joueuses au style à la fois similaire, mais à la fois différente. Je suis convaincu que Rebecca va pouvoir apprendre énormément de ce duel-là. Elle joue contre une légende vivante en Venus Williams. Les deux ont intérêt à gagner pour la préparation du US Open de l'Omnium Banque Nationale. Enfin, c'est un duel qui m'intrigue au plus haut point. J'aurais de la misère à prédire l'issue de ce match-là, qui va l'emporter. Mais ce que sais, c'est que ça va être un duel serré et que la balle va voyager extrêmement violemment.
Oui. Ce qui est le fun, Nico et Alex, c'est que dans cette volonté de l'ATP et de la WTA de concentrer leurs activités le plus possible ensemble sur différents tournois, sur plusieurs volets au niveau du marketing et de la diffusion aussi. Donc, les joueurs et les joueuses sont à Washington cette semaine. Donc, le tournoi ATP de Washington est un ATP 500, le tournoi WTA est un 250. Donc, c'est vraiment le fun de voir hommes et femmes réunis pour une même semaine. Moi, ça me plaît beaucoup ces formules-là. Et effectivement, Nico, ce premier tour entre Venus Williams et Marino, ça va être, tu sais, on parle souvent de match popcorn, là. Moi, je pense que c'en est un qu'on peut annoncer comme match popcorn, celui-là. Il va avoir des gros services, des gros coups droits. C'est deux joueuses de grand talent. C'est pas les plus jeunes du circuit, mais tu as beaucoup d'expérience et beaucoup de puissance sur le terrain. Ça va être un duel vraiment intéressant.
Oui, puis ce qui est paradoxal, c'est qu'autant ce match-là pourrait se finir 6-1-6-1, autant ça pourrait finir 7-5-7-5. Donc, ça va être génial.
Ouais, puis moi, j'en parlais à la radio ce matin au 99 Sports, justement. Là, et puis, je disais que moi, j'ai l'impression que je vais donner l'avantage dans ce match-là, ironiquement, à Rebecca Marino. Parce que Venus Williams n'a pas joué beaucoup dans les derniers mois. Là, Rebecca Marino a gagné un peu plus qu'à son tour. Alors, non, je pense que ça va être un match particulièrement intéressant, comme tu le disais. Dans ce tableau-là, messieurs, il y a aussi Jessica Pegula qui est là. Elle va jouer à la maison. Elle est la première tête de série. On parlait de Rebecca Marino et de Venus Williams qui s'affrontent au premier tour. Simona Halep est dans ce tableau-là également. Et il y a quelques autres joueuses. En effet, on va surveiller ce qui va se passer avec Emma Raducanu, qui est censée être la deuxième tête de série. Mais Nico, tu disais que peut-être le match est annulé. On va aller aux informations. Sloane Stephens et Sofia Kenin aussi sont dans ce tableau-là. Alors, un tableau très, très, très relevé à Washington du côté des femmes, messieurs.
Oui, et même Jessica Pegula, les gars. Tu sais, j'en parle souvent parce que je l'aime beaucoup. Là. Elle est première tête de série. Elle est formidable. Donc, si elle peut gagner ce tournoi-là et arriver au US Open et à l'Omnium avec ce momentum, ça pourrait être une saison nord-américaine phénoménale pour Jessica Pegula. On parlait du talent américain des hommes il y a quelques instants. Celui chez les femmes est d'autant plus spectaculaire avec des Coco Gauff, mais surtout Jessica Pegula qui m'impressionne à chaque fois que je la vois jouer.
Ben, Sophia Kenin, qui est une championne de grand chelem.
Daniel Collins également.
Daniel Collins, ouais, le pool de joueuses américaines est assez impressionnant. S'il y a peut-être un an ou deux, on disait que le tennis américain était relégué au rang de second de pays de second ordre, si on veut. C'était particulièrement vrai du côté des hommes, mais c'est certainement pas vrai du côté des femmes. Alors, beaucoup de bonnes joueuses dans ce tableau-là, messieurs, ouais. Mais il y a une fille qu'on était censé voir.
Oui.
Qu'on aurait dû voir,
Léla,
mais qui ne sera pas là. Léla Annie Fernandez, Hugues. D'ailleurs, on avait vu son nom popper dans un tableau à Atlanta. Finalement, elle n'a pas joué le tournoi d'Atlanta. Elle aurait dû jouer contre Coco Gauff. Ça n'a pas été le cas. Et ça ne sera pas le cas non plus à Washington.
Ouais.
Elle est visiblement toujours embêtée par une blessure.
Oui, elle devait faire une exhibition à Atlanta contre Coco Gauff et tout le monde avait hâte de voir ce match-là. Malheureusement, elle n'était pas prête et elle s'est retirée aussi de Washington cette semaine. Moi, j'avoue que tant que je n'aurai pas une annonce officielle de sa participation à l'Omnium Banque Nationale, je vais avoir une petite crainte. C'est toujours le tournoi qui est sur son horaire pour la suite des choses, mais ça va être son retour. Donc, on va le savoir, je pense, dans les prochains jours, dans quel état elle aborde l'Omnium et si elle pourra jouer. Donc, pour l'instant, elle est toujours inscrite. Elle y sera, mais tant que ça ne sera pas officialisé, j'ai une petite crainte que Léla ne soit pas prête à 100% encore.
Bon, on se doute qu'elle veut arriver à 100% à l'Omnium Banque Nationale. Elle ne veut pas prendre de risque. Nico, toi, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que tu te dis, bon, ben, peut-être qu'elle a juste décidé de se concentrer sur l'OBN? Ben, Nico, il va falloir que tu unmute.
Pardon, je pense que c'est ça. Je n'ai pas envie de jouer mon Elliott Friedman Insider, mais de ce que j'ai entendu dire, elle sera à l'Omnium Banque Nationale. Ça, c'est presque assuré. Ce que je sais aussi, c'est qu'autour de la fin de cette semaine, donc autour du 4, du 5, du 6, on va revoir Léla s'entraîner. On va revoir Léla peut-être parler aussi à certains médias. Mais ce que je serais prêt à miser ma main, mon poumon et peut-être mon sourcil droit que Léla va jouer à l'Omnium Banque Nationale.
J'aime que tu hésites à parier ton sourcil droit, poumon sans hésitation.
Parce que je suis droitier, donc mon œil fort, c'est le droit. Donc, si je parie mon sourcil, ça peut être assez dérangeant. Donc, c'est dire à quel point je suis confiant.
Et je crois que Nico a déjà perdu un rein sur un pari qui impliquait à un moment donné. Là, donc,
Ainsi que tous mes orteils du pied gauche. Donc, je commence à être un petit peu...
aux dernières nouvelles, tu devais passer l'Omnium Banque Nationale en chess aussi. Alors,
aussi.
on a vu ça passer, effectivement, oui.
Je pense que Nico a un problème de gambling. Honnêtement, c'est ce qu'on est en train de
Ça commence avec les pattes d'ours, ça finit avec des organes. C'est ça, moi.
Ah ouais, exactement. Messieurs, bon, du côté des hommes à Washington, il y en a un autre joueur qu'on va surveiller parce que Denis Shapovalov va être là. Est-ce que Denis va réussir à relancer sa saison en Amérique du Nord, messieurs?
Écoute, il y a un côté de tableau assez intéressant, mais là, encore une fois, on est prudent avec Denis. Ça a été plus compliqué, on le sait, depuis quelques mois. Changement de coach, plusieurs défaites au premier tour. Il va jouer contre un joueur au deuxième tour qui sera le gagnant d'un wild card, l'Américain J.J. Wolf ou le qualifié Taro Daniel, un Japonais. Ça devrait être prenable pour Denis. Après, ça va être Olgeroon. Là, on rentre dans du plus costaud déjà, donc le très bon joueur de terre battue. Mais encore une fois, Denis est un meilleur joueur sur dur, je crois, que Olgeroon aujourd'hui. Olgeroon qui l'avait battu au premier tour, d'ailleurs, à Roland-Garros, on s'en souviendra. Donc, Denis voudra une revanche. Mais je pense qu'il peut faire un parcours intéressant dans le tableau de Washington cette semaine, là, Denis Shapovalov.
J'ai hâte de voir si Denis va remporter, parce que quand on regarde ses matchs dans les derniers tournois, là, ça n'a pas été évident. Là. Deux matchs seulement à Wimbledon après ça.
Ouais.
Un tour à Mallorca, même pas un tour, là, une défaite au premier tour à Mallorca, défaite à Londres, tournoi 500, défaite à Stuttgart, défaite à Paris, à Roland-Garros. Alors, il n'a pas avancé beaucoup dans les derniers mois.
C'est maintenant que ça se passe. Là, je pense que s'il veut sauver sa sa saison et ne pas être trop affecté au niveau confiance. Il doit bien performer dans la série qui se débute sur dur. Il a vécu peut-être parmi ses plus grands moments au US Open à Montréal. On se souvient de sa victoire contre Nadal dans un match de night session inoubliable en 2017. Donc, je pense que Dennis doit aborder cette série-là sur dur avec beaucoup d'ambition. Il doit avoir les crocs, là. Il doit gagner maintenant.
Oui, et comme tu dis, il a un tableau peut-être prenable. Même Algeroun, t'as mieux l'affronter sur dur que sur terre battue, ça c'est certain. Exact. Dans ce tableau-là, il y a également Andrei Rublev qui est première tête de série. Jack Sock et David Goffin qui s'affrontent au premier tour. C'est un genre de match popcorn quand on regarde le parcours de David Goffin dans les dernières semaines et Jack Sock, un Américain qui va jouer à la maison. Maxime Cressy dans ce tableau-là aussi, il a battu Félix cette année, entre autres. Alex Dominor est dans ce tableau-là aussi, qui vient tout juste de remporter un tournoi. Brooksby, un Américain, qui vient tout juste de faire une finale aussi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons joueurs dans ce tableau-là. Hubert Hurkacz aussi est au bas du tableau comme deuxième tête de série. Il y a Andy Murray dans ce tableau-là également. Et Nick Kyrgios aussi, qui est à Washington.
Oui. Nick Kyrgios qui a déjà remporté Washington, hein. C'est un tournoi qu'il aime beaucoup, donc bien hâte de voir le parcours que fera cette semaine Nick Kyrgios. Et oubliez pas les gars aussi qu'il va se passer des choses aussi au niveau du classement. Medvedev joue cette semaine à Los Cabos, il veut ramasser quelques points, donc il est au Mexique. J'ai vu que Félix était sur le tableau aussi, hein. Je sais qu'il était à Montréal pour s'entraîner, mais il joue au Mexique cette semaine à Los Cabos, il est deuxième favori, Medvedev étant le premier. Moi aussi, je me frotte les mains à l'idée d'une finale entre Medvedev et Félix. Là, il y a un long parcours avant que ça arrive, mais ça pourrait se produire. Et Zverev qui chauffe dangereusement en ce moment, Medvedev, là, même si Zverev n'est pas actif, mais Medvedev a beaucoup de points à défendre dans la série du US Open, là, donc il doit gagner des matchs. Là.
Ben, il va avoir le Canada et l'US Open à défendre, ce qui sont des points énormes pour Medvedev. Alors, non, tu fais bien de souligner. Nico, on parlait de Stone Washington, où il y a beaucoup de grands noms qui sont là, notamment Hubert Hurkacz en tout bas du tableau et Rublev au haut du tableau comme première tête de série. Et Washington est souvent un bon baromètre pour savoir quel joueur est en forme et pas pour l'Omnium Banque National.
Oui, puis je veux absolument rebondir sur Medvedev, les gars. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu jouer à son plein potentiel. Ce gars-là va arriver le couteau entre les dents, j'en suis convaincu. Ouais. Il pourrait déchirer sa chemise pour gagner un match. Ça fait, en plus, on le sait, là, Medvedev, c'est un sanguin, c'est un bouillant, c'est un gars qui a soif de victoire. Honnêtement, à l'Omnium Banque Nationale, sa présence, bon, il devrait être là parce qu'il aime venir jouer ici. Mais j'aimerais pas ça jouer contre un Medvedev qui n'a pas gagné depuis longtemps. Il sera dangereux, le couteau entre les dents. Ce sera vraiment, on sait que Medvedev est, bon, en ce moment, selon le classement, le meilleur joueur au monde. Il devra, d'une part, prouver son classement, mais je suis convaincu qu'il va le faire sans trop de problèmes.
Et dans le cas de Félix, messieurs, tu sais, je parlais de Denis qui veut relancer sa saison. Félix, ça a été un peu plus compliqué dans les derniers mois. Et là, il a un tableau quand même relativement prenable pour... écoutez, c'est pas si... Il est largement favori dans sa partie de tableau, je vais dire ça comme ça. Il est deuxième tête de série.
Clairement. Clairement, écoute, encore une fois, je vois les tableaux, je vois le haut du tableau et le bas du tableau, donc le haut avec Medvedev et le bas avec Félix, et je vois pas s'ils sont en forme l'un et l'autre, là. La voie est ouverte pour une finale là, entre Félix et Medvedev à Los Cabos. J'espère qu'on pourra en reparler la fin de semaine prochaine.
Ouais, souhaitons-le, parce que c'est un... comment dire, ce sera comme... une belle façon de nous mettre entre guillemets hype pour ce tournoi-là qui s'en vient à l'Omnium Banque Nationale. Hugues, on va faire une autre courte pause. Au retour, on va parler. Je veux qu'on revienne sur ce week-end de la famille qui s'en vient à l'Omnium Banque Nationale.
Quand vous séjournez à l'hôtel Montville, vous profitez d'une place de stationnement ainsi que d'un petit déjeuner gourmand pour bien commencer la journée. Rendez-vous sur le site hotelmontville.com pour planifier votre escapade. Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée à l'hôtel Montville. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
Oh oui, on le disait en début d'émission, l'Omnium Banque Nationale approche à grands pas. Et je voulais qu'on revienne sur ce week-end de la famille là à l'Omnium Banque Nationale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants dans ce week-end-là. Qu'est-ce qui te marque, toi, de ce week-end-là, de la famille que tu vis depuis très longtemps? Tu me disais que tu y allais, toi, avec
oui, ben le premier point, ben moi, j'y allais même quand j'avais pas de famille. J'en profitais parce que les billets étaient gratuits. Ils le sont toujours. Il faut prendre un billet. Vous avez accès au site et vous aurez accès aux qualifications et à des excellents matchs. Notamment, n'oubliez pas que les deux joueurs les plus attendus au qualif sont David Goffin, le Belge et Fognini, l'Italien qu'on aime beaucoup, qui commence à être un peu en fin de carrière, là, qui me donne toujours des matchs très, très spectaculaires. Mais c'est le meilleur moment pour la famille, pour faire découvrir le tennis à leurs enfants. Un paquet d'activités sur place. Il n'y a pas juste le tennis, évidemment, mais c'est souvent là qu'on prend la piqûre parce qu'on est tellement près des joueurs. C'est impressionnant. C'est un très beau site. On sera dans un tournoi qui sera à 100% normal cette année. Donc, les Marquise avec les restaurants, les boutiques, tout ça, les concours de services, tout le monde aime ça, pouvoir se tester un peu, le mini-tennis pour les jeunes, des spectacles, donc il se passe tellement de choses, moi j'encourage vraiment les gens à y aller, et maintenant le week-end de la famille commence dès le vendredi, donc c'est sur 3 jours, ils ont encore étendu la durée de cet événement, donc profitez-en pour y aller en famille, c'est vraiment cool.
Oui, non, exact. Et il faut vraiment garder à l'œil ce qui se passe dans ce week-end-là. Puis on le disait, il y a une proximité qui est jamais vue dans ce genre de week-end-là. Vous pouvez voir les athlètes pratiquer, vous pouvez voir parmi les meilleurs joueurs au monde s'illustrer sur ces terrains-là gratuitement. Il y a toutes sortes d'activités aussi, on le disait, et j'en parlais avec Julie Gravel, la directrice du marketing de Tennis Canada, un peu plus tôt cette semaine quand j'ai fait une entrevue avec elle. Il y a beaucoup d'événements autour du tennis. On veut que ce soit exact. Pas juste un événement de tennis, mais un événement point. Et Hugues, tu sais très bien qu'en marketing, si tu veux aller chercher un public un peu plus large, il faut que tu sois capable de créer un événement. Et ça, Tennis Canada est assez phénoménal dans ce genre d'organisation-là.
Ouais, moi, je trouve que c'est l'organisation au fil des années qui a réussi à dépasser l'événement sportif sur une base régulière pour en faire un événement de société. Quand c'est le tennis à Montréal, là, il y a un buzz, tout le monde est tennis durant la semaine du tennis, tout le monde est intéressé par le tennis, mais ça va vraiment au-delà du sport. Là. C'est un événement socio-culturel, sportif, là, je dirais. C'est une réussite que l'équipe de Jeanne Lapierre et de Richard Legendre avant ont réussi à faire depuis plusieurs décennies et ça continue de s'améliorer année après année.
Et Hugues, l'épisode tire à sa fin, mais avant de te laisser aller, rappelle-nous, juste pour nous écœurer un peu, où tu es dans cette Floride sur le bord des terrains de tennis.
Oui, donc on est au Club Med de Sandpiper Bay, mais aussi à l'Académie de tennis de Gabe Jaramillo, qui est un coach quand même de grande réputation, là, qui a coaché des joueurs comme Kai Nishikori, Maria Sharapova. Il a aussi travaillé avec les Américains Sampras, Jim Courier, un très, très, très beau site, là, et il est vice-président des Académies Altitude, qui sont dans le sud des États-Unis. Donc, très, très belle école de tennis. Moi, je regarde les jeunes jouer ici et je peux dire que l'avenir du tennis américain est en train de se façonner aussi. Il y a du très, très beau niveau ici de joueurs là, de la région et qui viennent même du Mexique aussi pour s'entraîner ici parce qu'il y a vraiment une très bonne école. Donc, c'est un bonheur d'être ici au chaud pendant quelques jours.
Ben, profitez-en pour faire des contacts et faire la promotion de Sur la ligne là, auprès des intervenants de tennis en Floride. Qui sait, peut-être que Sur la ligne deviendra plutôt que plus tard International, mon cher Hugues Léger.
Ben, c'est bien parti pour ça. On est le podcast francophone numéro 1 au Canada. On est écouté partout dans le monde. On est souvent dans le top 10 en France aussi. Donc, ça va très bien pour sur la ligne. Et on va sûrement croiser les fans cette année à l'Omnium parce qu'on sera sur place avec notre studio et on va être près des fans durant tout l'événement.
Ben, Hugues, j'ai bien hâte de me retrouver près de toi en personne à l'Omnium Banque Nationale. On se revoit dès le week-end le prochain. Oui. Et peut-être même vendredi, là, dans le cadre du tirage au sort. Enfin, on se tient au courant, mon gars. Profite de tes dernières journées de vacances. Pense pas trop à nous, Hugues. On salue Nico qui a dû quitter rapidement, aller faire une entrevue pour la presse. Mais Hugues, pense pas trop à nous. Profite de tes dernières journées de vacances et échange quelques balles sur des terrains fabuleux.
Alex, un dernier point avant qu'on close. Yes. C'est un scoop. Donc, selon mes sources, qui sont généralement très bonnes, Alexis Galarneau aura une wildcard pour les qualifications de l'OBN, à confirmer officiellement, mais généralement, j'ai des sources qui sont très fiables. Donc, Alexis Galarneau devrait faire partie du tableau des qualifications de l'Omnium Banque Nationale. C'est une excellente nouvelle, il le mérite entièrement.
On a le droit de l'annoncer, là. Tu l'annonces comme ça, Alexis Galarneau va être de l'Omnium Banque Nationale.
Selon mes sources, ça sera confirmé officiellement sous peu, j'imagine, mais tout augure dans cette direction-là.
Ben, Alexis, qui était avec nous en début d'épisode, tu vas devoir venir faire ton tour sur la ligne plus tôt que plus tard, mon cher, pour venir nous parler de cet Omnium Banque Nationale. Hugues, fais attention à toi et je salue Nico de loin. Je te donne un mot de la fin puisque Nico n'est pas là.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Nico, si tu joues un peu cette semaine avant qu'on se revoie. Et bon tennis, tout le monde, que vous soyez dans le sud de l'Amérique du Nord ou dans le Nord. Hein.